Bonjour à tous et bienvenue dans PolitiTalk, la première émission politique centrée autour de la jeunesse. Pour cette première édition, nous recevons Gaspard Ganzer, ex-conseiller communication de François Hollande, et Antoine Fromental, réalisateur du film À nous de jouer. Pour m'accompagner également aujourd'hui, Léa Chamboncel de Place du Palais Bourbon, et Océane Mascaro et Andreas Chaïb, digne représentant de Génération d'Avenir, Place du Palais Bourbon et Génération d'Avenir, qui sont les deux partenaires de C'est l'Info dans la production et la réalisation de cette émission. Et justement, avant de l'entamer, cette émission, je vous propose d'écouter ou de regarder tout de suite le sommaire. Quant à nous, on se retrouve juste après ça.
PolitiTalk, votre nouveau rendez-vous qui met en avant l'action politique auprès de la jeunesse. Nous recevons Gaspard Ganzer, ex-conseiller chargé de la communication sous François Hollande. Il se décrit comme parisien avec des ambitions. Quelles ambitions ? Notre émission s'axera ainsi autour de Paris, Paris 2020. Les questions que la jeunesse se pose avec les relations entre Paris et la banlieue, l'avenir du Grand Paris, l'état des lieux de la propreté, de la sécurité ainsi que de la mobilité à Paris. Et enfin, quelles propositions concernant la jeunesse ou comment répondre aux problèmes spécifiques des étudiants à Paris. En deuxième partie d'émission, nous serons avec Antoine Fromental, réalisateur du film À nous de jouer, sorti l'an dernier. Le réalisateur tente de défendre une nouvelle conception de l'éducation au travers ce long métrage. Mais alors, quel est son véritable message derrière ce film ? Réponse en fin d'émission.
Nous revoici donc après le sommaire de ce premier numéro de PolitiTalk. Nous accueillons à présent Andreas Chaïb. Bonjour Andreas.
Bonjour Martin.
Et Andreas, vous allez nous présenter la vie, le CV de Gaspard Ganzer.
Alors, Gaspard Ganzer, comment vous présenter ? Gaspard Ganzer, vous êtes né le 8 septembre 1979 à Paris, notamment connu du grand public pour avoir été le directeur de la communication de François Hollande entre 2014 et 2017. Vous êtes également passé par le Parti Socialiste, dans lequel vous êtes rentré en 2002. Camarade de promo de l'ENA d'Emmanuel Macron, vous êtes haut fonctionnaire et avez travaillé en 2008 à la mairie de Paris, où vous étiez alors directeur de cabinet de Christophe Girard, l'adjoint à la culture du maire de l'époque. Plus précisément, en 2004, lorsque vous sortez de l'ENA, vous intégrez le corps des administrateurs civils et êtes affecté au ministère du Travail. Concernant votre positionnement politique, vous soutenez Ségolène Royal en 2017, puis DSK en 2011, en vue de la primaire citoyenne et enfin Martine Aubry après l'affaire du Sofitel. De 2010 à 2012, vous êtes le conseiller communication de la mairie de Paris, puis entre 2012 et janvier 2013, porte-parole de votre mentor en politique, Bertrand Delanoë. À partir de 2013, c'est le passage au Quai d'Orsay, où vous êtes conseiller en communication presse de Laurent Fabius. Vous tentez alors de moderniser la communication du ministère par la création d'un blog des ambassadeurs et le choix de donner plus de place aux chaînes d'information dans les voyages officiels. C'est en 2014 que vous êtes nommé chef du pôle communication de l'Élysée, à la place d'Aquilino Morel. Et force est de constater que la politique vous a plu. En 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, vous êtes investi par La République En Marche dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine. Mais cette nomination est critiquée et dès le lendemain, vous devez renoncer à votre candidature. Mais peut-on vous en vouloir à vous, Gaspard Ganzer, de ne pas être allé en Ille-et-Vilaine ? Vous que Libération décrit comme l'archétype du bobo parisien cool et sûr de lui. Vous qui êtes tant attaché à cette ville et ignorez peut-être même, comme beaucoup de Parisiens, où se trouve l'Ille-et-Vilaine ? Non. Vous, votre place, elle est à Paris, entre Bastille, République, Odéon et, de temps en temps, le 15e dont vous êtes natif. Alors, vous montez votre agence en conseil en communication et relations publiques, 2017, en 2017, selon l'effort stylistique, avec deux compagnons de route, Romain Abreu et Denis Pingot. Et puis, la politique vous rattrape, encore et toujours, et vous passez du conseiller Ganzer au parisien Ganzer, aux yeux du grand public. Vous lancez cette année votre mouvement Parisienne-Parisien, qui est un rassemblement citoyen, qui souhaite s'investir et peser dans le débat public. Avec Parisienne Parisien, vous entendez entre autres parler de sécurité, de propreté, de transport, de logement, d'environnement, et avec une mesure phare, faire tomber les barrières du périph. Alors, le 11 octobre dernier, c'était le lancement officiel de votre mouvement à l'Élysée-Montmartre, une salle de concert emblématique du Paris branché et dynamique, en vue des élections municipales de 2020. Alors, la question qui se pose, Gaspard Ganzer, ce soir, elle est double. Le grand Paris d'un Paris en grand prendra-t-il pour vous d'ici 2020 ? Et surtout, où se trouve l'Ille-et-Vilaine ?
Gaspard Ganzer.
Bah, merci beaucoup pour cette invitation dans ce format original et merci pour ce portrait à la fois sympathique et même élogieux hein, qui a failli faire rougir. Je faisais souvent la plaisanterie suivante après mon renoncement à la candidature pour La République En Marche à Rennes. Je disais c'est dommage qu'on m'ait pas proposé d'être candidat rue de Rennes parce que j'aurais accepté. C'est dommage qu'on m'ait pas proposé d'être candidat rue de Bretagne parce que j'aurais accepté avec plaisir. On m'a proposé Rennes en Bretagne. Je ne pouvais pas accepter parce que je suis effectivement un parigo, un titi parisien, un bobo parisien, un poulbo, tout ce que vous voulez, mais totalement parisien.
Merci beaucoup Gaspard Ganzer pour cette réponse. On va marquer une petite pause, le temps d'un jingle, et on va revenir à présent avec toi Léa sur Paris, Gaspard Ganzer, ses projets pour Paris et Paris et la jeunesse. À tout de suite.
Très bien, donc parlons maintenant de votre projet pour Paris, Gaspard Ganzer. Vous avez récemment fait part de votre volonté de bâtir Paris en grand. Et comment comptez-vous y procéder concrètement? Vous avez annoncé aussi, de manière assez audacieuse, vouloir détruire le périphérique. C'était quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. On aurait aimé avoir votre vision des choses et plus particulièrement vos détails pour aussi le Paris, le Grand Paris. Quel avenir pour le Grand Paris? Quelle priorité? Il faut le construire, certes, mais avec qui et comment?
Merci pour cette bonne question et une bonne entrée qui est une bonne entrée en matière. Moi, je pense que Paris est une ville trop petite et que cette petitesse est à l'origine de bien des problèmes à Paris. Si on compare Paris avec d'autres grandes capitales européennes, notamment Londres, Madrid, Rome, Berlin ou même Bruxelles, Paris est la plus petite de toutes ces villes. On est 2 à 3 fois plus petit que toutes ces villes. Et cette taille réduite explique bien des problèmes. Surdensité de population, et donc problème de propreté, problème de saturation des transports, problème d'inflation immobilière. Donc si on veut faire baisser les prix du logement, si on veut désaturer les transports, si on veut que les rues soient plus aérées, plus propres aussi, si on veut mieux respirer dans cette ville, il faut agrandir Paris. Et agrandir Paris, c'est pas agrandir Paris administrativement ou politiquement. La priorité, c'est de l'agrandir d'un point de vue urbanistique et architectural. Et c'est finalement le sens de l'histoire de Paris. Puisque vous le savez certainement, mais Paris n'a fait que grandir par cercles concentriques depuis sa création. L'île de la Cité, le mur des fermiers généraux, puis l'enceinte de Thiers, puis la zone qui a été recouverte par le périphérique. Et depuis un siècle et demi, Paris est bloqué dans sa croissance. Comme un adolescent qu'on aurait empêché de grandir. Et ben, je crois qu'il faut permettre à Paris de grandir et d'aller jusqu'au bout de sa croissance. Et cette croissance, elle va au-delà du périphérique. Et c'est pour ça que j'ai proposé de détruire le périphérique.
Très bien. Donc, on comprend effectivement l'enjeu. Vous avez soulevé un point important qui est la propreté à Paris. Ce dossier déchaîne un peu les passions, comme on l'a vu récemment. On a vu aussi que l'adjoint au maire d'Hidalgo avait quitté ses fonctions au début du mois. Il part avec un bilan qui est un peu particulier, compliqué, disons, car il y a eu 4 plans qui ont été mis en œuvre sans réelles avancées. Il y a encore aujourd'hui près de 3000 tonnes par jour de déchets qui sont collectés uniquement dans Paris. Il y a les problématiques aussi de recyclage, c'est-à-dire que seulement 20% des déchets des Parisiens sont aujourd'hui recyclés. Quelles sont vos ambitions dans cette matière?
Ce qui est certain, c'est qu'en matière de propreté, Anne Hidalgo a échoué. Les rues sont de plus en plus sales. Et on n'a pas réussi à mettre en place un système efficace de recyclage des déchets. C'est dommage parce que la plupart des capitales européennes et mondiales, des grandes démocraties, des grandes économies, ont réussi à mettre en place ce système de tri sélectif qui permet de recycler. Quand on veut améliorer la protection de l'environnement, quand on a une ambition écologique pour sa ville, il faut absolument avoir un système de recyclage efficace. Donc je pense qu'il y a 2 priorités pour les prochaines années. La première, c'est mettre la priorité sur ce recyclage avec les particuliers, avec les entreprises, avec les commerçants. Il y a plein de systèmes qui sont envisageables. On peut, par exemple, jeter ses emballages dès la sortie des magasins. On peut acheter en vrac davantage. On peut inciter, y compris économiquement, les gens à recycler en leur donnant une gratification s'ils le font de façon intelligente. Et on peut aussi être plus dur sur certaines matières, par exemple sur le plastique. Moi, je pense qu'il faut interdire tout simplement la vente de plastique, de bouteilles en plastique, par exemple, ou de sacs en plastique à Paris. C'est un travail ambitieux, difficile, mais je pense qu'il est prioritaire. Puis l'autre sujet, c'est le nettoyage des rues au quotidien. On se souvient que dans les années 80, Jacques Chirac il avait mis en place des motocrottes. Et c'était un peu risible, certains s'étaient moqués, mais c'était diablement efficace. Et surtout, ça avait fait prendre conscience aux Parisiens qu'il était nécessaire de respecter les rues. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est respecter les rues, donc lutter contre les incivilités, réprimander ceux qui ne respectent pas la rue, l'espace public, et puis après mobiliser les agents de la propreté de Paris dans l'espace public pour nettoyer ces rues au quotidien.
Précisément sur la question des agents, on s'est rendu compte ces dernières années que leur effectif a été réduit. Est-ce que vous envisagez de l'augmenter ?
Alors, à l'échelle de la ville de Paris, l'ensemble des agents ont augmenté. On est passé quasiment à plus de 70 000 agents de la ville de Paris alors qu'on était à 50 000 il y a 20 ans. Donc il y a eu une inflation des effectifs qui n'est pas forcément justifiée d'ailleurs. En revanche, sur quelques services publics dont la propreté, on a plutôt un phénomène d'attrition du service public et des effectifs. Et ça, je pense que c'est dangereux parce que quand on a un secteur prioritaire comme l'est la propreté de Paris, c'est un peu comme la petite enfance, les crèches ou d'autres, ou la sécurité par exemple, il faut se donner les moyens, y compris humains, de faire face aux problèmes.
Question également sur la sécurité. Gaspard Ganzer, on le sait, hein, la sécurité à Paris, c'est aussi l'un des problèmes que peuvent avoir les habitants de Paris, les Parisiens. Il y a de nombreuses rixes entre bandes. Et puis, bien, il y a cette question de la sécurité dans les transports avec ces fameux dealers de crack sur certaines stations de métro. Comment est-ce que vous percevez le niveau de sécurité qui règne au sein de cette capitale française ?
Bah, l'insécurité progresse à Paris, c'est une évidence. Trafic de drogue, crack, héroïne, cocaïne, cannabis, rixes entre bandes. Ce type de violence existait surtout dans les banlieues des grandes villes françaises. Aujourd'hui, c'est en plein cœur de Paris. Il y a les gens qui se sont tués en plein cœur de Paris. Ici, on est dans le 4e arrondissement, on n'est pas loin de Bastille. Il y a moins d'un an, à Bastille, il y a un jeune gamin, un jeune ado qui s'est fait tuer rue de la Roquette. Et aujourd'hui, il ne se passe plus un mois sans qu'il y ait une personne qui se fasse assassiner dans le cadre d'une rixe entre bandes. C'est inacceptable. Et puis enfin, deux choses. Il y a les touristes qui se font dépouiller de leur portefeuille alors qu'ils sont en train de visiter notre ville. Et puis surtout, parce que pour moi c'est le plus grave, il y a toutes les femmes qui se font harceler dans les transports publics et dans la rue. Une insulte, un geste déplacé, quand ce n'est pas une agression ou un viol. Et je pense que pour résoudre cela, pour lutter contre cela, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas se cacher dans son petit doigt. Depuis longtemps, la gauche est défavorable à l'idée de la création d'une police municipale, d'une police parisienne. Moi, je pense que c'est indispensable. Il faut créer une police municipale rattachée et dépendante de la ville de Paris, sous l'autorité du maire de Paris, qui aura comme responsabilité, non pas de lutter contre le terrorisme ou de protéger les édifices publics, ça c'est le rôle de la police d'État, mais de rassurer les Parisiens et de garantir leur tranquillité.
Un autre sujet qui est assez fondamental pour les Parisiens et les Franciliens, le coût de la vie. Vous nous disiez tout à l'heure qu'en créant le Grand Paris, ce serait aussi l'occasion de venir pallier le problème du prix de l'immobilier. Mais en réalité, on se rend compte que dans les villes aux abords du périphérique, qui sont comprises dans le Grand Paris de demain, les prix augmentent également. Il y a le coût de la vie, aujourd'hui, 8 cadres sur 10 envisagent de partir de l'Île-de-France et de s'installer en province. Qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous envisageriez de faire pour essayer d'éradiquer ce phénomène ?
Que les familles quittent Paris ou le Grand Paris, c'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est un signe du déclin d'un territoire quand les familles le quittent. Moi, je suis père de famille, une famille recomposée de 4 enfants et je suis très fier de pouvoir élever mes enfants ici. Même si ça nécessite de se serrer ou de consacrer beaucoup d'argent à son loyer. Mais pour lutter contre le logement, contre l'inflation des prix du logement, pardon, il ne faut pas simplement agrandir Paris. Il faut aussi créer des logements sociaux. Il n'y en a pas assez à Paris. Créer des logements, ce qu'on appelle intermédiaires, c'est la catégorie juste au-dessus des logements sociaux pour les classes moyennes. Et pour permettre à tous ceux qui travaillent pour Paris, donc les infirmières, les instits, les assistantes maternelles, les profs et bien d'autres choses, les flics, les pompiers, etc., de se loger dans Paris. Parce que c'est évidemment un problème aussi que ceux qui soignent les Parisiens, ceux qui les protègent, soient obligés de faire des kilomètres et des kilomètres de métro ou de voiture pour venir jusqu'ici. Et puis enfin, je pense qu'il ne faudra pas exclure deux choses. Un, d'être extrêmement offensif et dur avec ceux qui font de la location meublée touristique, donc Abritel, Airbnb et tous les autres. Parce qu'il y a beaucoup trop de nuitées qui sont possibles en termes de location Airbnb. 90, c'est absurde. Il faudrait descendre à beaucoup moins, peut-être 30. Donc être beaucoup plus dur, beaucoup plus offensif. Et la deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas exclure dans certains quartiers de construire en hauteur. Sans pour autant construire des gratte-ciels, hein. Mais on peut dépasser la hauteur haussmannienne si on le fait de façon harmonieuse et intelligente.
Comment accueillez-vous l'initiative des Gilets jaunes ?
Je comprends que les gens soient mécontents que les carburants augmentent quand ça leur prend du pouvoir d'achat. Mais de l'autre côté, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est plus normal de consacrer tant d'énergie à une énergie polluante comme l'essence ou le diesel. Donc moi je pense que le gouvernement doit tenir bon sur son objectif de taxation des véhicules et des énergies polluantes. Par exemple, j'ai acheté un scooter électrique d'occasion parce que même si l'électricité elle est produite notamment par l'énergie nucléaire, elle est aussi produite par des énergies renouvelables, mais je suis certain qu'en tout cas elle fait moins de pollution que le diesel ou l'essence. Déjà moins de pollution sonore, parce que ça fait quasiment pas de bruit un scooter électrique. Et puis en termes énergétiques, c'est quand même beaucoup moins polluant puisque ça dégage moins de particules dans l'atmosphère.
Parlons un petit peu de la jeunesse, puisque ben, nous sommes, et on le rappelle, hein, en partenariat avec Génération d'Avenir, avec Place du Palais Bourbon, évidemment. Concernant la jeunesse, sur un niveau et sur le plan culturel, qu'est-ce que vous aimeriez pour Paris? Est-ce que, par exemple, ouvrir les bibliothèques le soir, hein, c'est des propositions qui ont été faites, vous semble être quelque chose de positif?
Il y a plusieurs âges de la jeunesse.
Les étudiants, alors.
Parlons quand même, j'en profite pour parler de l'enfance. L'éducation artistique, tout au long de la vie, notamment en maternelle, primaire et au collège, ça me semble totalement prioritaire. Donc c'est pour ça que j'ai proposé qu'on double le budget de l'éducation artistique, notamment pour qu'il y ait plus de place dans les conservatoires et que tout le monde puisse, s'il le souhaite, se former au théâtre, à la musique ou au chant. Après, pour les étudiants, je pense qu'il faut adapter les services publics et les horaires des services publics à la vie des étudiants. Ça vaut pour les bibliothèques, qu'il faut effectivement ouvrir le dimanche et le soir, mais ça vaut aussi pour les équipements sportifs, les piscines par exemple. Pourquoi pas ouvrir les piscines jusqu'à beaucoup plus tard le soir. Et puis enfin, sur la culture, je pense qu'il y a une offre culturelle pléthorique à Paris, de salles de ciné, salles de concert, salles de théâtre. Il faut travailler intelligemment sur les tarifs. Il y a déjà beaucoup d'offres étudiantes qui existent. On peut toujours réfléchir davantage avec les lieux concernés. Mais je crois qu'il faut aussi trouver d'autres moments de célébration, de fête et de réjouissance. Parce que ce que j'aime dans la ville de Paris, dans la vie à Paris, c'est aussi les terrasses, les fêtes improvisées, le tapage nocturne intelligent, on va dire, sur les places, et les fêtes qui n'en ont pas l'air et qui commencent au début du jour et qui se terminent à la fin de la nuit.
Et concernant également toute cette province et ces jeunes de province qui peuvent se déplacer à Paris, alors que ce soit pour un week-end, pour des vacances ou pour les études, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces jeunes de province ?
De profiter totalement de cette ville, hein, qui est pour moi la plus belle ville du monde. Moi je suis né à Paris, donc j'ai pas eu la chance de monter à Paris, mais j'aurais adoré vivre cette expérience. Donc résultat, je suis monté sur la butte Montparnasse, Montmartre et bien d'autres. Et c'était aussi une expérience en soi, parce qu'on a toujours un Paris à découvrir. Non, je leur profiterai de totalement profiter de cette ville et de le faire librement. Moi, je pense que la meilleure façon de profiter de cette ville, c'est de la découvrir en passant, en circulant, en marchant dans les rues.
Merci beaucoup Gaspard Ganzer, hein, d'avoir répondu aux questions de Léa et puis à ses premières questions sur Paris, sur la jeunesse. On va à présent ouvrir ensemble une autre séquence, la séquence Génération d'Avenir. Alors on sera avec Océane, hein, dans un tout petit instant, Océane qui vous a prévu quelques questions et puis une chronique, hein, qui sera désormais habituelle dans le Politi Talk. Mais avant cela, deux membres de Génération d'Avenir, Omri et Edouard, on va commencer dans un instant par écouter la question d'Omri. Omri a voulu justement vous poser une question, la question au format selfie, voilà, dans un format un peu novateur, toujours dans cette volonté d'offrir quelque chose de nouveau. Ce que je propose, hein, Gaspard Ganzor, c'est qu'on écoute justement la question d'Omri et qu'on en parle ensemble après.
Monsieur Ganzer, bonjour. Je sais que vous avez travaillé pour la communication du président Hollande à l'époque où il était candidat. Pour cela, ne pensez-vous pas que le succès d'une communication politique aujourd'hui se fait par l'effet de buzz, c'est-à-dire un effet court et intense sur l'opinion publique, alors que à l'époque, ça se faisait plus sur le long terme, avec un débat d'opinion plus peut-être poussé?
C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de règle intangible de la communication politique. Mais je ne serais pas d'accord avec Omri. Je crois qu'on peut faire le buzz à très court terme. Mais si on veut construire une image, structurer un message et convaincre dans le long terme, il faut aller dans le fond des arguments et parler du fond, justement. Le buzz disparaît toujours. Il n'y a rien plus vieux que le buzz de la veille.
On écoute à présent celle d'Edouard.
Bonjour, monsieur Ganzer. Je suis un lycéen en terminale L cette année et du coup je me penche un peu sur mon orientation. J'ai vu que vous étiez passé par l'Institut Sciences Po Paris et que vous étiez passé par l'ENA. Donc je voulais vous poser des questions par rapport à l'ENA, pourquoi vous êtes entré dans cette école et qu'est-ce qui vous a marqué vraiment de cette école, un souvenir. Voilà, merci beaucoup.
Je suis entré à l'ENA totalement par hasard puisque j'avais pas du tout prévu de réviser le concours de l'ENA. Et c'est notamment pour, on va dire, passer du temps avec deux copines que j'ai décidé de préparer le concours et donc de passer mon été à Paris et aussi dans le centre de la France pour réviser ce concours. Et sur un concours de circonstances, j'ai été admis. Donc il y a beaucoup de hasard dans la vie.
Tout le monde n'aurait pas cette faculté.
Oui, bon écoutez, un peu de chance, beaucoup de travail et énormément d'audace et beaucoup de choses peuvent se passer. À l'ENA, j'ai assez peu de souvenirs intellectuels, hein, parce que ce qui frappe à l'ENA, c'est la médiocrité de l'enseignement, hein, qui est vraiment abyssale. C'est-à-dire qu'en fait, on régresse intellectuellement dans cette école, c'est frappant. En revanche, comme dans tout moment de sa vie, ce qui vous marque le plus, c'est vos expériences humaines. Et moi, ce sont les amis que j'ai rencontrés là-bas, avec qui j'ai parfois révisé, souvent joué au foot, et passé des soirées interminables à boire, à manger des flammenkuchen et à chanter dans des karaokés. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie.
Donc finalement, à l'ENA, on n'apprend pas forcément à apprendre de manière théorique, mais on apprend à faire des rencontres. Et
je crois que c'est toujours ça dans les études. Dans les études, on oublie en fait assez vite ce qu'on a appris pendant ces études. Moi, j'ai fait aussi un peu de droit, j'ai tout oublié des règles de droit que j'avais prises à l'époque. Mais en fait, ce que je n'ai pas oublié, c'est les gens que j'ai rencontrés à cette occasion-là.
Voilà donc pour cette première partie Génération d'avenir. Hein, on était avec Edouard et Omri. On remercie d'ailleurs Edouard et Omri et on invite les membres Génération d'avenir dans le futur à poser l'ensemble des questions. Hein, vous savez comment ça fonctionne avec votre téléphone. On accueille à présent Océane Mascaro. Bonjour Océane.
Bonsoir.
Océane, donc tu es membre Génération d'avenir. Juste avant d'entamer la chronique, rappelle-nous juste voilà, ce que tu fais, ton âge et voilà, ce que tu fais comme étude.
Donc je m'appelle Océane, j'ai 17 ans et je suis en prépa BL à Henri IV, comme Emmanuel Macron.
Et donc Océane pour...
Je vous souhaite d'avoir l'école d'armée supérieure en...
Merci.
Et donc Océane pour cette première chronique... Tu as évidemment choisi de parler de Paris et plus précisément d'un sujet qui te tenait à cœur.
Absolument. Bonsoir Gaspard Ganzer.
Bonsoir.
Il y a quelques jours, une élève de ma classe qui habite en banlieue me disait « Paris c'est comme une lampe et en banlieue tu te sens comme un moustique. » Tu es attiré par Paris, tu gravites à l'extérieur et puis tu décides d'y entrer. Mais tu ne peux pas y rester trop longtemps parce que tu risques de t'y brûler les ailes. Alors tu ressors et tu y reviens plus tard, à l'infini. Paradoxalement, la gravitation autour de Paris semble bien plus complexe que l'entrée dans Paris. L'organisation radiale des lignes de métro est en cause, mais le Grand Paris a pour ambition d'y répondre, soit. Toutefois, il semble qu'il y ait autre chose. Une attraction teintée de répulsion, une fascination pour Paris, accompagnée du sentiment de ne pas y être à sa place. Ce sentiment se retrouve chez les jeunes en général, il y a un problème de légitimité de la parole. La question c'est où s'exprimer. L'une des forces d'expression radicale qui s'est développée récemment prend la forme des Black Blocs. Au-delà des caricatures de casseurs assoiffés de destruction gratuite qui ont pu en être faites, l'émergence de ce mouvement traduit tout de même l'impression de ne pas être écouté et de devoir prendre la rue pour être enfin pris au sérieux. Les structures existantes, comme les conseils de la jeunesse, les conseils des générations futures, ne sont pas suffisamment connues des jeunes et ont souvent l'image de réunions interminables qui ne servent pas à grand-chose. Ainsi semble émerger un conflit multiple à Paris, presque générationnel. Les Black Blocs sont composés intégralement de jeunes. De toute façon, on imagine mal des retraités encagoulés qui casseraient les vitrines d'un McDo. Alors que les retraités squattent les conseils de quartier avec détermination. De même, les trottinettes électriques se sont rapidement imposées, tandis que les plus âgés se voient privés de leur voiture diesel, auquel ils s'étaient farouchement attachés depuis des décennies. Et à propos de la place de la voiture à Paris, se pose la question récurrente de la piétonnisation des voies sur berge. Comment interpréter les conflits qu'elles suscitent ? Il est difficile de les résumer à un conflit générationnel, et à vrai dire, des oppositions similaires à celles qui se structurent autour du 17 novembre, dont on parlait tout à l'heure, se dessinent. Est-ce l'opposition entre des écologistes et des pollueurs qui se refusent au sacrifice ? Est-ce un délire parisien, loin des préoccupations de la banlieue ou de la province ? Est-ce une marotte dévastatrice de technocrates déconnectés de la réalité, des bobos inconscients de la vie de ceux qui n'ont pas leur chance ? Peut-être. Mais reste que ces problèmes sont à différentes échelles, symptomatiques d'une même réalité. La nécessité pressante, urgente même, de la décarbonation. Des solutions discutables, ou du moins discutées, qu'on dit non efficaces. Dans tous les cas, la vie continuera, comme avant. Il faudra bien toujours aller au travail. La circulation sera reportée sur le périph. Les gens devront toujours prendre la voiture, quitte à payer plus cher. Ce qu'on espère, à vrai dire, de ces mesures, c'est un changement à long terme. L'abandon de la voiture ou son remplacement par la voiture électrique. Il est évident que ces mesures représentent à court terme un poids financier considérable, malgré toutes les aides qui peuvent exister, mais pourtant elles représentent une tension indéniable vers un assainissement de notre mode de vie. Mais il s'agirait aussi de rendre cette transition plus attrayante, plus sexy, et notamment, pourquoi pas, en faisant de ces voies sur berge un espace privilégié pour le débat public, une agora, un lieu d'éducation populaire. Alors, est-ce que vous envisagez, Gaspard Ganzer, des mesures, des moyens pour rendre la parole aux Parisiens, notamment aux jeunes, dans cet espace particulier ? Et comment comptez-vous, en général, accompagner cette transformation de la mobilité des Parisiens ?
Merci beaucoup pour cette très belle chronique, incroyablement bien écrite. Ça me rend presque jaloux, parce que j'aimerais pouvoir écrire aussi bien que cela. Donc, bravo. Deux choses, parce qu'en fait, il y a deux aspects dans la question. Sur la question de la mobilité, et vous avez bien fait de les lire, mais sur la question de la mobilité, je pense qu'il y a deux façons de faire de la politique. La première, c'est de dire on améliore les choses un peu au fur et à mesure. On fait quelques kilomètres de tramway en plus, on change les horaires du métro, on améliore le fonctionnement de la ligne 13, etc. Il faut faire tout ça. Moi, je pense qu'il y a une autre façon de la politique que je préfère, qui est beaucoup plus radicale, et de réfléchir à la façon dont on se déplacera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et dans ce cas-là, il faut être révolutionnaire dans l'approche. C'est pour ça que j'ai proposé de supprimer le périphérique, parce que c'est un endroit extrêmement polluant, parce que ça coûte cher, et qu'en plus, ça ne règle aucun problème de pollution, tout en plus séparant Paris en deux, coupant Paris en deux. Donc je pense qu'il faut voir loin, en se disant que dans 50 ans, les gens ne se déplaceront plus de la même manière en véhicule individuel polluant, ils se déplaceront en véhicule autonome, ils se déplaceront en véhicule électrique, et puis ils prendront des transports collectifs, qu'ils soient ferroviaires ou de surface, comme les bus ou les tramways. Et donc il faut penser ça à long terme, tout en se disant qu'il faut conserver la même souplesse d'organisation, parce qu'on ne sait jamais ce que les innovations technologiques prévoiront. Peut-être qu'on se déplacera en drone dans 50 ans. Qui sait ? Dans une voiture volante. Regardons ce qui se passe dans le cinquième élément. J'espère qu'on n'en sera peut-être pas là, ou en tout cas avec la même violence, mais ça sera intéressant. Quant à la démocratie, et évidemment tout ça doit être discuté avec les citoyens, il y a aussi deux manières de voir la démocratie. Première, traditionnelle, qui considère que dans la démocratie représentative, vous confiez un mandat à quelqu'un et au bout de 6 ans, vous le jugez. Je pense que ça doit rester la clé de la politique, parce qu'on doit être élu pour mener des projets. Mais dans le même temps, il faut aussi qu'il y ait des cordes de rappel démocratiques, et qu'il faut qu'à plusieurs moments du mandat, on puisse reconsulter les Parisiens et les Parisiennes, soit par arrondissement, soit par quartier, soit à l'échelle de la ville. Plusieurs idées. Par exemple, si à un moment donné, on se rend compte que financièrement, la ville n'a pas l'argent qu'elle devrait avoir, et qu'on doit soit baisser des dépenses, soit augmenter des recettes. Eh bien, dans ce cas-là, je pense qu'il faut reconsulter les Parisiens. Si, à un moment donné, comme on envisage de créer des arrondissements supplémentaires parce qu'on aura décidé d'agrandir Paris en cours de mandat, eh bien, il faudra reconsulter les Parisiens. Si à un moment donné, on décide de procéder à un très grand aménagement, il faudra reconsulter les Parisiens. Et quand je dis consulter les Parisiens, c'est pas simplement leur demander leur avis, c'est-à-dire dans le cadre d'une concertation pour récupérer leurs idées. C'est leur dire, est-ce que vous le souhaitez ou est-ce que vous ne le souhaitez pas? Oui ou non? Et s'ils répondent oui, on y va. S'ils répondent non, on n'y va pas. Et cette culture démocratique, cette corde de rappel démocratique, elle doit être là en permanence. Quant à l'idée de l'agora, je l'aime beaucoup, parce que j'aime l'idée de l'espace public, de son occupation démocratique. Et en réalité, pour que les citoyens se rassemblent dans l'espace public et en discutent, il faut que les élus y aillent aussi. Je pense qu'en réalité, ce qui manque à la ville de Paris, c'est que les élus de la ville de Paris vont simplement de façon temporaire, dans la rue, alors qu'ils devraient quasiment avoir des bureaux dans la rue, en réalité. Un peu comme on faisait pendant la Révolution française, que les élus montent sur des petites caisses, sur des blonds publics, reçoivent des cahiers de doléances, mais pas simplement au moment des campagnes électorales, tout au long du mandat. Et pas simplement en tournant dans les marchés, mais en discutant et en ouvrant des débats partout dans l'espace public en permanence.
Merci beaucoup, Océane, donc pour cette chronique. On va marquer une courte pause et puis on va revenir dans un tout petit instant, hein, parce que PolitiTalk, c'est de la politique, Gaspard Ganzer, mais ce n'est pas uniquement de la politique, parce qu'on a voulu avec Léa apporter quelque chose d'autre dans ce podcast, et c'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui Antoine Fromental, réalisateur du film À nous de jouer. On va en parler dans quelques instants avec Léa, avec Antoine et avec Gaspard. Allez, on est de retour donc dans PolitiTalk, premier numéro. Gaspard Ganzer, hein, je le rappelle, est notre invité. Et Léa, tu vas nous parler d'Antoine Fromental et de son film.
Alors oui, très brièvement, je vais très brièvement introduire Antoine. Antoine, merci d'être là ce soir parmi nous. Vous êtes donc le réalisateur du film documentaire intitulé « À nous de jouer », qui met en avant en fait l'initiative du principal du collège Jean Massé à Clichy, qui a décidé d'encourager les méthodes alternatives pour lutter contre l'échec scolaire. Donc vous êtes très engagé sur ces questions-là. Est-ce que vous voudriez bien nous présenter votre travail et votre engagement auprès de la jeunesse, s'il vous plaît?
Ben oui, du coup, c'est arrivé un peu par hasard, en fait. Moi, à la base, je voulais faire un travail sur le temps, en fait, avec À nous de jouer. Je me suis dit, je vais suivre des jeunes gens de leurs 10 ans à leurs 15 ans, et je vais essayer de capter les métamorphoses psychologiques, intellectuelles, physiques, évidemment, qui sont tellement fascinantes et belles à ce moment de la vie. Et j'avais un camarade qui prenait en main un atelier théâtre, tu vois, dans un collège de banlieue, c'était à Clichy. Et, il me dit, je garde les enfants 4 ans. Je fais, c'est super, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux filmer les enfants 4 ans, est-ce que t'acceptes que je les suis pendant 4 ans? Il me dit, pas de souci. Et c'était au conservatoire de Clichy. Et du coup, on a commencé ce projet et je me suis rendu compte que c'était en fait quand même intégré à leur cursus scolaire et qu'on était à l'école. L'école, moi, c'était un lieu que j'avais détesté. Et donc j'avais été souvent viré, donc ça avait été très compliqué. Et je me dis, j'ai une espèce d'angoisse qui revient comme ça. Je me dis, mon Dieu, le principal de ce lycée, de ce collège, si je m'en fais pas un ami, il va me dire, vous êtes gentil avec vos caméras, mais vous prenez la porte. Donc il faut que je montre patte blanche et que donc j'ai fait une sorte d'entretien presque diplomatique. En fait, j'en attendais pas grand chose. Et en plus, il avait une allure un peu austère, une cravate grise, une moustache. Enfin, voilà, il me faisait un peu peur. Je me dis, ça va pas être simple. Et dès les premiers mots, j'ai découvert d'abord une personnalité hors du commun, un pédagogue passionné qui se lève tous les matins pour que ses enfants soient, enfin ses petits comme il les appelle, ses élèves soient heureux à l'école. Donc il portait par cette idée complètement neuve pour moi, qui est de dire que les enfants doivent être heureux à l'école, ce qui ne voulait pas dire d'être laxiste sur les cas de violence, etc. Mais il s'est dit, comment je peux faire pour que l'ensemble de mes élèves, la variété de mes élèves, trouve quelque part une sorte de chemin personnel singulier au sein de mon établissement, et c'est pour ça qu'il parie sur les classes à projet. Et ensuite deux de ces classes à projet, le théâtre et le rugby. Le théâtre donc, qui rassemble des enfants qui vont monter leur Roméo et Juliette en pleine année Charlie Hebdo, et le rugby qui rassemble un peu les bad boys de l'école qui seraient sûrement sortis du système scolaire et qui vont tenter de se qualifier pour les championnats de France de rugby. Il y a deux choses auxquelles j'ai pensé pendant que vous parliez, Gaspard Ganzer. D'abord, je suis un vrai, vrai petit Parisien comme vous. Et c'est vraiment cliché, c'est à 10 minutes de Paris. Mais quand on m'a dit, waouh, tu vas faire un projet en banlieue, je me suis dit, c'est l'aventure. En banlieue, tu vois, vraiment, je savais que c'était bête, fondamentalement. Mais il y avait ce truc, cette barrière. Donc il y a, de notre côté, quand on est vraiment des purs Parisiens, il y a une barrière symbolique qui est grotesque, mais qui existe, qui est forte, qui est sans doute moins forte aujourd'hui. Et puis j'ai découvert Clichy. Et Clichy, moi, ce qui m'a touché, c'est la mixité qu'il y a. C'est-à-dire, comme il y a un peu des bobos qui mettent leurs enfants, parce que c'est quand même tout près de Paris, il y a aussi des classes populaires, et c'est assez beau, et ça fonctionne plutôt bien. Donc cette espèce de destruction du périphérique symbolique dont vous parlez, j'y suis assez sensible, mais j'en ai une crainte, puisqu'on a parlé d'immobilier, j'ai une toute petite crainte, qui est pas, voilà, j'espère que ce sera pas le cas, mais j'ai peur qu'effectivement ça chasse complètement les classes populaires des banlieues toutes proches de Paris, comme ça le fait un peu à Montreuil, comme ça peut le faire à Clichy. Moi, finalement, sur les 5 ans où j'ai vécu à Clichy, les loyers sont quand même un peu envolé, et alors il y a toujours des classes populaires, mais c'est un peu l'inquiétude que j'ai. Et comment on peut faire pour qu'il y ait à la fois nous, des bobos, on est aussi des Français, et les classes populaires, voire même les classes plus aisées. C'est ça qui est beau, c'est comme ça qu'on fait société. Et ce qui est beau dans la discussion qu'on a, ce qui est beau dans ce que fait Christian Comès, le principal, c'est qu'il dit, évidemment, je lutte contre l'échec scolaire, je veux pas que mes élèves les plus en difficulté aillent faire de la délinquance, etc. Mais surtout, je veux que tout le monde soit là. Parce que c'est si on est tous, on grandit tous ensemble, qu'on fera une société unie et solidaire. Et il dit, c'est pour ça que je crée à l'intérieur de ce dispositif, avec plein de dispositifs pour les élèves en difficulté, des classes d'excellence. Il crée des classes européennes dès la 6e qui étaient un peu critiquées, mais c'est parce qu'il disait on doit aussi, l'école publique doit aussi proposer des parcours d'excellence qui permettent de les garder au sein de l'école publique plutôt que de les voir partir dans le privé.
Je suis à 100% d'accord avec tout ça, merci beaucoup et bravo d'ailleurs, parce que j'ai pas vu le film, mais je vais me ruer dessus pour essayer d'en savoir plus et le voir vite. Je suis d'accord avec l'idée que la banlieue, c'est non seulement l'avenir de Paris, mais c'est surtout sa principale richesse. Et la diversité à Paris et dans le Grand Paris, c'est quelque chose qu'on doit préserver comme un trésor. Moi, je pense que le pire danger pour Paris, c'est l'homogénéisation, qu'elle soit par le haut ou par le bas. Il faut conserver cette diversité d'âge, de religion, d'origine, de milieu économique. Alors finalement, elle existe encore, parce que même dans Paris, intramuros, il y a encore des quartiers populaires. Hein. Je n'aime pas, c'est pas ce que vous avez dit, mais les gens qui ne connaissent pas Paris pensent que Paris est une ville intégralement peuplée de bourgeois, de bobos, et c'est totalement faux. Il suffit d'aller dans le 19e, le 20e, le 13e. Moi, j'ai grandi dans le 15e, le sud du 15e, c'est un quartier populaire. Hein. C'est pas du tout un quartier bourgeois. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les religions, tous les âges et tous les milieux sociaux. Et j'aime pas qu'on laisse entendre qu'il y aurait cette homogénéité. En même temps, il faut se battre pour la protéger. Parce que c'est le trésor des villages parisiens, le village des Tamouls, les Portugais, les Juifs, les gens qui viennent on va dire, du Congo Brazzaville, qui sont dans, à la limite entre le 18e et le 10e. C'est formidable d'avoir toute cette diversité, il faut la préserver. Et si évidemment on agrandit Paris, à Clichy, à Montreuil, à Montrouge, il faudra la conserver. Ouais.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, les bobos essayent de rester à Paris, mais s'ils vont dans les proches banlieues, c'est parce qu'ils sont un petit peu chassés de Paris, dont les voiliers deviennent de plus en plus élevés, et qui ne permet pas à des gens des classes moyennes de rester au sein de... Voilà, à l'intérieur de Paris, et donc ils vont à Clichy, à Montreuil, Et il repousse aussi encore plus loin les classes populaires.
Il n'y a pas que la nécessité qui fait aller les gens de l'autre côté du périphérique, je crois. Bon, c'est majoritairement la même nécessité, hein, notamment pour les familles. Les familles vont souvent de l'autre côté du périphérique parce qu'elles peuvent plus se loger quand il y a le deuxième enfant en général. C'est ça le moment. Mais aussi, ils aiment bien la richesse et la diversité qui peut exister à Montreuil ou à Saint-Ouen. Moi, la plupart de mes potes d'enfance, ils vivent en banlieue aujourd'hui. Ils se sentent toujours parisiens. Ils regrettent juste de plus pouvoir bénéficier des services publics parisiens. Et je crois qu'on gagnerait à avoir la même politique en matière de logement, la même politique en matière d'urbanisme, de transport, et même peut-être de petite enfance et de propreté. Parce que quand on passe de Boulogne à Paris, de Clichy à Paris, on est dans la même continuité urbaine. Et honnêtement, si on ne le sait pas, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de franchir une frontière administrative et politique.
Et moi, pour être très honnête, j'ai entendu parler quand vous disiez que c'était l'une des plus petites villes, des plus petites grandes villes, et je suis d'accord avec vous, mais je pense que vous êtes parisien comme moi, et du coup, il y a peut-être une nostalgie dont il faut, voilà, qu'il faut passer, mais moi j'aime bien ce côté village, je trouve ça incroyable qu'on puisse traverser Paris si facilement, et finalement je suis un peu, je pense qu'il faut que je passe à autre chose, mais je suis assez attaché à ces barrières symboliques, à ce petit village. J'ai peur de ça.
Je comprends très bien ça, parce que moi aussi, je suis attaché à mon village. J'ai grandi dans le 15e, j'ai vécu dans le 11e, le 3e, le 6e, un peu partout. Et j'aime tous les villages dans lesquels j'ai vécu. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cet agrandissement, parce que par exemple, New York, très grande ville que j'aime beaucoup par ailleurs, il y a une identité de quartier extrêmement forte. Londres, ville immense, identité de quartier très forte. Donc on peut conserver une identité de quartier extrêmement puissante tout en ayant plus d'air dans la ville. Moi, tous mes amis un peu plus jeunes, là pour le coup, entre 20 et 30 ans, ils rêvent d'aller vivre à Berlin, à Londres, à New York. Alors évidemment, il y a le goût de l'étranger, le goût de l'altérité, mais il y a aussi l'idée de l'espace, quoi. Et ça serait quand même pas mal d'avoir une ville avec plus d'espace vert, moins de densité de circulation, plus d'air, tout simplement, quoi.
Antoine, si je puis me permettre, vous, votre engagement, donc, c'est la jeunesse. Est-ce que vous auriez une question ce soir sur cette thématique, plus particulièrement ?
Je connais mieux le sujet que moi, donc c'est ça qui est difficile.
C'est tout l'intérêt.
C'est vrai, bon, c'est une question un peu classique, mais c'est sûr que le principal de mon collège, finalement, il met en place des classes à projet. Donc, il y a des classes théâtre, il y a des classes rugby, il y a des classes en nat, des classes musique. Et parce que ça marche, en fait, il m'a dit, voilà, je suis pas un utopiste. J'ai travaillé dans les plus difficiles établissements de Seine-Saint-Denis. Et j'ai vu que l'éducation frontale, classique, avec 30 élèves devant un professeur, ça ne fonctionnait pas, en tout cas pas partout. Et qu'il fallait donc proposer une pédagogie plurielle, plus ouverte, etc. Et évidemment, ça coûte de l'argent. Ça demande d'ouvrir l'école à d'autres intervenants. Et je ne sais pas si vous avez des solutions.
Non, mais j'ai oublié de réagir là-dessus, parce que je suis très attaché à ça. Moi, je crois à l'excellence dans le secteur public. J'ai rien contre le collège ou les écoles privées. Les gens peuvent être libres d'y aller s'ils le souhaitent, que ce soit pour des raisons confessionnelles ou pour des raisons de liberté. Moi, j'ai fait mon primaire dans le public, j'ai fait mon collège dans le privé et mon lycée dans le public. Donc, j'ai vu les deux systèmes. Mes enfants sont dans le public, mais si un jour, pour des raisons de choix, ils décident d'aller dans le privé, ça ne me choquera pas et on pourra en discuter avec leur mère. Donc je ne fais pas cette opposition. En revanche, j'aime bien l'idée que dans le public, où il y a quand même plus de classes populaires, il y a une excellence particulière. Alors l'excellence, elle peut se faire à travers ce que propose l'éducation nationale en tant que telle, les cours. Il y avait les classes européennes auparavant, etc., même si elles ont été réintroduites d'une autre manière aujourd'hui. Il y a les prépas, etc. Mais je crois que la ville de Paris, ce qu'elle peut faire, c'est deux choses. Un, la rénovation des bâtiments. Parce qu'évidemment, quand les bâtiments sont en mauvais état, on a moins envie d'y mettre ses gamins, ou les gamins ont moins envie de respecter l'école. Et puis l'autre chose, c'est tout ce qui va autour. Les cours de théâtre, les cours de musique, le sport. Moi, je suis très ami avec un prof de sport qui est au collège Georges Braque, dans le 13e. Collège donc très populaire. Ils ont des classes rugby, exactement comme dans le documentaire. Et ça fédère tous les gamins du collège. Et ça marche super bien. Je ne sais pas si vous connaissez le rugby, mais il y a un joueur de rugby qui s'appelle Wesley Fofana, qui est un des joueurs de l'équipe de France. Et bah, c'est un gars de cité, quoi, d'à côté du collège Georges Braque. Et il est passé par là. Et après, il a fait une super grande carrière. Et il a joué aujourd'hui à Montferrand, à Clermont-Ferrand, et en équipe de France. Et je crois beaucoup à ça, à l'excellence. L'excellence sportive, l'excellence culturelle, l'excellence académique. académique et il faut mobiliser de l'argent. Surtout que la ville de Paris a des ressources pour faire cela. Elle a des profs en primaire, des profs de musique, des profs de sport. Il n'y a que les Parisiens qui savent ça, mais on est la seule ville de France à avoir un corps enseignant en musique et en art plastique. Et ça, c'est une chance, quelque chose qu'on peut développer. Et puis après, on a aménagé les rythmes scolaires. Et donc, on a des heures possibles, notamment en primaire, pour offrir d'autres choses aux enfants. Après, au collège, c'est encore autre chose, c'est encore plus de moyens, mais je crois que c'est totalement nécessaire.
Voilà, donc c'est là-dessus hein, que nous allons terminer ce débat et cette première émission hein, de PolitiTalk. Je tenais tout d'abord à vous remercier, vous.
Merci à vous, je suis très flatté d'avoir été invité à la première émission.
Voilà, vous avez posé une pierre à l'édifice, mais peut-être que vous reviendrez, et quand vous reviendrez, vous aurez un autre statut, qui sait.
Quoi, on sera pas loin de l'Hôtel de Ville, on sait jamais.
Exactement.
En tout cas, si un jour je deviens maire de Paris, on fera une émission à l'Hôtel de Ville, c'est un engagement que je prends aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, nous retenons. Je remercie également Antoine Fromental, hein, je rappelle, donc réalisateur du film À nous de jouer. Et puis, je vais remercier évidemment hein, Léa de m'avoir aidé à préparer cette émission. Je vais également remercier Andreas, qui est le président de Génération d'Avenir, membre de Génération d'Avenir, Océane Mascaro, qui était avec nous ce soir. Et puis, à la caméra, on avait Philippe, qui était avec nous également, pour l'enregistrement de ce premier PolitiTalk. On se retrouve dans une quinzaine de jours avec un nouvel invité. Cet invité, il sera Pierre-Yves Bournazel. Nous aurons également l'occasion avec lui de parler de divers sujets. Paris, mais pas que, parce qu'il y a évidemment autre chose que Paris. Et d'ici là, donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et puis je vous dis à très bientôt sur C'est l'Info, sur Génération d'Avenir et sur Place du Palais Bourbon.